Elle écrit, traduit et analyse. Peut-être que l'IA assume déjà une partie de votre travail. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre job de demain? Ces phrases d'introduction ont été rédigées par une intelligence artificielle. C'est maintenant l'humain qui prend le relais. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialogue numérique. Je m'appelle Patricia Michaud et c'est moi qui ai le plaisir d'animer la version francophone du podcast. La collaboration entre l'IA et l'humain, c'est donc le modèle de travail de l'avenir? Comment pouvons-nous nous préparer à cette collaboration?
C'est une bonne question.
Cette question, et bien d'autres, je les aborde dans un entretien avec Jérôme Cozendet, le chef de la direction du travail du secrétariat d'État à l'économie, le SECO. Ingénieur de formation, Jérôme Cozendet a travaillé dans le secteur des assurances et des services financiers avant de suivre une deuxième formation, cette fois en histoire économique. Avant de prendre ses fonctions actuelles en mai 2025, il a œuvré durant 14 ans au sein du laboratoire d'idées Avenir Suisse. En sa compagnie, je m'aventure dans l'avenir de notre marché du travail.
Nous les hommes, on pourrait nous imaginer de nous mettre la tête entre dans l'étau et puis de se faire tondre une coiffure toute simple, mais il restera toujours la discussion avec le coiffeur ou avec la coiffeuse.
Ensemble, nous revenons également sur les évolutions passées du marché du travail.
60% des jobs d'aujourd'hui n'existaient pas en 1940.
Et nous analysons les opportunités offertes par la transformation numérique au secteur du placement de personnel. Jérôme Cozendet, bonjour.
Bonjour.
Dialogue numérique, le podcast du Programme national de recherche sur la transformation numérique, le PNR 77. Le PNR 77 a étudié à travers différents projets de recherche comment la numérisation transforme notre société. Dans ce podcast, nous discutons des résultats avec des spécialistes issus des milieux politiques, éducatifs et économiques.
Jérôme Cozendet, il est 9h30 environ. Nous nous trouvons dans votre bureau à la direction du travail du SECO à Berne. Quelles ont été vos premières activités numériques depuis le réveil?
Bon, le matin, quand je me réveille, j'écoute volontiers la radio par mon téléphone. J'écoute la radio en italien, RSI. Ça me fait un peu baigner dans une autre atmosphère. J'essaie de ne pas regarder tout de suite mes mails. et puis de regarder un petit peu quels sont les points chauds de l'actualité.
Donc c'est le réflexe non numérique alors. Ne pas regarder ses mails.
Le réflexe non numérique, oui, mais ça me coûte beaucoup. mais effectivement, c'est ça un peu les 15 premières minutes. Et puis après, il y a la routine qui vient. Et le côté numérique, j'utilise un outil pour apprendre une langue. Ça reste quelque chose que je fais aussi avec mon fils. C'est un petit peu le moment privilégié le matin avant qu'on parte. Chacun fait son Duolingo.
Quelle langue est-ce que vous êtes en train d'apprendre?
L'italien.
D'où la RSI.
D'où la RSI, exactement. Le matin on baigne dans
la bouclée.
La culture italophone, exactement.
La transformation numérique a entraîné de nombreux changements sur le marché du travail, continue à en entraîner. Est-ce que vous pouvez brièvement lister les principaux changements qui sont observables actuellement?
Bon, déjà, il faut voir que c'est quelque chose qui a lieu depuis très longtemps. J'ai regardé l'autre jour une page de titre d'un grand journal allemand, Spiegel, en 1973, qui déjà disait « les ordinateurs vont nous tuer les jobs ». On voyait un robot qui déplaçait un employé de fabrique. Et il faut voir ça dans cette continuité. Depuis toujours, certaines tâches répétitives, on a pu les automatiser par un robot, maintenant de plus en plus par l'informatique, Internet, et puis depuis peu encore l'intelligence artificielle. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. C'est des tâches, peut-être avec une exception pour l'intelligence artificielle, mais jusqu'à présent, c'était vraiment des tâches facilement descriptibles, qu'on peut répéter, qu'on peut faire selon un schéma qui est standardisé. Et du coup, ça veut dire que l'humain se spécialise de plus en plus là où il fait la différence. En fait, on joue sur l'avantage comparatif. Donc, tout ce qui est l'interaction sociale, organiser, régler des conflits, ce n'est pas des tâches si facilement standardisées. Et donc, dans notre quotidien, on fait de plus en plus ces tâches-là parce qu'on se fait soutenir par les autres tâches qui sont automatisées. L'intelligence artificielle bouge un petit peu ses lignes parce qu'on peut faire gentiment des choses plus compliquées. prépare-moi une liste de bonnes questions pour un interview avec le chef de la direction du travail. Et vous recevrez un premier jet, c'est pas définitif, mais vous avez déjà un premier jet d'une tâche qui était plutôt complexe, qu'on pensait pas pouvoir automatiser il y a peut-être 5 ans en arrière. Mais là encore, vous allez vous spécialiser sur, OK, comment j'amène cette question? Comment je fais la transition? Donc, on va toujours avoir une importance relative plus importante des tâches où l'humain où le social, où l'interaction joue un plus grand rôle. Et puis les tâches répétitives, les tâches automatisables, elles restent, mais elles perdent en importance relative.
Vous avez commencé avec la question spécifique de l'intelligence artificielle. Alors, cette dernière a un impact qui peut être très concret sur le marché du travail. Est-ce que justement, du côté du SECO et de la direction du travail du SECO, on observe des changements par rapport au marché du travail, notamment en termes de nombre d'emplois liés au boom de l'intelligence artificielle?
Bon, je pense qu'il est encore très tôt pour voir des tendances claires se dessiner. Hein. Je veux dire, ChatGPT, ça fait 2 ans et demi que ça existe. Alors, ça, en 2 ans et demi, vous avez 900 millions d'utilisateurs, je crois, ce qui est énorme. Mais de là, de voir dans les statistiques quelque chose de significatif, c'est très difficile parce que vous avez différentes tendances qui s'accumulent. Vous avez une augmentation du chômage en général depuis 2023, la sortie de la crise du Covid, où on avait l'économie qui a explosé au sens positif et un taux de chômage qui est très très bas. Et maintenant, on remonte dans des taux de chômage à 3,2%. On est plus ou moins légèrement au-dessus de la moyenne des 20 ans. Vous avez des cycles conjoncturels avec toutes les tensions avec les États-Unis, les tensions maintenant sur le Moyen-Orient, et puis vous avez des effets de saisonnalité. Et de là, de dégager un bruit qui serait lié à l'intelligence artificielle, c'est difficile. Le COF, l'École Polytechnique de Zurich, a fait une analyse où il montre une certaine corrélation. Donc, on voit que dans certains métiers qui seraient peut-être plus sujets à être substitués par l'intelligence artificielle, le taux de chômage a augmenté. Mais encore une fois, c'est une corrélation, c'est pas forcément une causalité. Hein. On sait très bien qu'il y a plus de cigognes en Alsace, et en Alsace, le taux de fécondité est plus haut que dans le nord de la France. Mais on sait que c'est pas ça le justificatif pour ces différences. Mais c'est quelque chose qu'on observe, qu'on regarde de près, qu'on essaye justement d'utiliser nos données fines qu'on a au sein de l'assurance chômage pour pouvoir mieux comprendre ces phénomènes.
Alors, en effet, 2 ans, c'est peu pour établir des statistiques. Maintenant, il y a la statistique du ventre, on va dire. Que dit l'intuition? Quel type d'emplois ont tendance à être remplacés ou modifiés par une intelligence artificielle? Peut-être quelques exemples concrets.
Bon, je pense que il faut faire la différence entre emploi et tâche. Dans n'importe quel job, et ce que je disais tout à l'heure avec depuis 1973, le cahier des charges, respectivement le temps qu'on passe par jour, je pense que mes prédécesseurs, il y a 20 ans en arrière, faisaient aussi des messages, mais ils avaient peut-être un assistant ou une assistante qui les prenait par sténodactylo, qui les écrivait, et puis qui ensuite l'imprimait, et puis il y avait une signature. Aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière, je pense que mon prédécesseur l'aurait écrit directement lui-même dans son ordinateur, puis aujourd'hui, je pourrais peut-être demander à ChatGPT, j'aimerais faire une lettre qui dit ces 3 points, fais-moi un premier jet, et puis après. Donc, vous voyez, là, le job, il existe toujours. Mon job existe toujours, mais la façon dont les séquences de la journée s'organisent change. Ayant dit ça, c'est clair qu'il y a des métiers où les tâches qui peuvent être remplacées ou compléter, je pense que c'est important de voir cette différence. Il y a un effet de substitution ou un élément de complément, où l'intelligence artificielle peut jouer un rôle, va arriver. Je vous ai donné un exemple, moi, dans un métier dans un bureau, mais même dans un métier manuel. Je pense à un jardinier, par exemple. La gestion de son stock de graines, l'analyse de certaines maladies sur certaines plantes. Il pourrait peut-être faire une photo, voir est-ce qu'il y a trop de soleil, pas assez d'engrais, etc. Donc, même dans un métier manuel, comme un jardinier, je peux imaginer que l'intelligence artificielle prenne sa place. Ça ne va pas le remplacer, ça va être un complément. Et puis, par contre, il y a peut-être des tâches très simples, très standardisées. Je pense à la traduction, par exemple, où ça, effectivement, on pourra faire le même travail de traduction dans beaucoup moins de temps. Ou, à l'inverse, on pourra traduire des textes qui, par le passé, on n'aurait pas traduit, parce qu'on n'avait juste pas l'argent, pas les ressources. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir ces deux dimensions. Quelle est la part de mes tâches qui pourrait utiliser l'intelligence artificielle? Et est-ce que cette utilisation va créer une substitution? Enfin, j'ai plus besoin, ou ça supprime peut-être un demi-poste ou un tiers de poste, ou au contraire, est-ce que ça va me booster, est-ce que ça va me permettre d'être encore plus performant, et puis justement, ce qu'on disait tout à l'heure, de me concentrer sur les tâches où j'ai une vraie valeur ajoutée. Je ne pense pas que vraiment il y aura un grand changement sur les métiers. Mais certaines tâches vont être systématisées, Selon une étude, je crois que 60% des jobs d'aujourd'hui n'existaient pas en 1940. Et si on a posé la question en 1940, à quoi ressemble le monde du travail, personne n'aurait pu être capable de le dire. Il y aura plein de choses, je pense, qui vont changer, mais qu'on a aujourd'hui de la peine à s'imaginer, juste parce qu'on voit mieux ce qu'on pourrait perdre, mais on a plus de peine à s'imaginer ce qu'on pourrait gagner.
Si je vous entends bien, vous dites plutôt changement de type de tâche, remplacement de certains types de tâches, création même de nouveaux métiers. Ça veut dire que côté SECO, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de gros changements dans le nombre d'emplois publiés.
En tout cas, si on regarde les 20, les 30, les 40 dernières années, l'automatisation au sens large a certes amené des transformations, mais ça n'a jamais été une rupture brutale, c'était toujours assez graduel. Maintenant, l'intelligence artificielle, on parlait du nombre d'utilisateurs de ChatGPT, a une rapidité qui est très différente, et puis elle s'instaure aussi dans des tâches pour lesquelles on n'avait pas l'habitude d'automatiser. Donc c'est difficile aussi là de se projeter. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ? Je pense que c'est important qu'on observe ça, mais j'ai plutôt tendance à regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide.
Et donc SECO n'a pas une boule de cristal et encore moins une e-boule de cristal.
Encore moins une e-boule, exactement. Mais on pourrait demander à ChatGPT ce qu'il en pense.
Ça pourrait être un de vos réflexes après cet entretien.
Exactement.
La numérisation du marché du travail, quels sont là, à votre avis, les besoins de réglementation et qu'est-ce qui va devoir pouvoir se faire dans un avenir proche ?
Bon, le Parlement, respectivement, les lois doivent suivre deux objectifs. D'une part, moi, je pense que c'est important, et typiquement pour la Suisse, où la main-d'œuvre est quand même très chère, on n'a pas des matières premières, on ne vit pas sur des sources de pétrole, etc. Donc, avoir un marché du travail qui permet l'innovation, qui permet l'ajustement à des conditions cadres qui bougent. Le contexte géopolitique aujourd'hui est complètement différent de ce qu'il y a 10 ans en arrière. Le contexte technologique, on en parlait, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est dans d'autres domaines où il y a beaucoup d'innovation. Je pense qu'il faut trouver la douce balance entre vouloir réglementer et puis laisser aussi un petit peu l'expérimentation. On a un marché du travail ou une réglementation du marché du travail qui est très décentralisée. Il y a des règles minimums qui sont dans le code des obligations et dans la loi du travail. Il y a ces fameuses CCT. Elles peuvent être déclarées de force obligatoire, donc elles s'appliquent après à toute une branche. Et je pense qu'avec ça, on arrive justement à ajuster le tout. Je ne vois pas forcément aujourd'hui une grande lacune dans l'organisation du marché du travail qui serait liée à l'intelligence artificielle.
Alors, l'automatisation croissante des tâches entraîne plusieurs besoins pour les travailleuses et les travailleurs. Et l'un d'entre eux est bien évidemment de disposer de compétences numériques qui leur permettent de travailler avec les nouveaux outils technologiques. Le comité de direction du PNR 77 rend notamment attentif à l'importance d'un investissement régulier dans la mise à jour des compétences numériques. Comment est-ce qu'on peut s'assurer justement que les travailleuses, les travailleurs ont accès à ces compétences numériques de façon très concrète ?
Je pense que c'est vraiment important de voir trois niveaux. Je pense qu'au niveau individuel, chacun, chacune doit réfléchir quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour pouvoir être performant dans la tâche que j'exécute. Je reprends l'exemple des traducteurs. Vous devez maîtriser les outils de traduction. Si vous dites non, je sais bien, j'ai mon dictionnaire Gros Robert, je pense que ça ne va plus l'affaire. Mais de réfléchir, ok, du coup, le métier va changer. Est-ce que moi, j'aime plutôt la rédaction ou j'aime plutôt la traduction ou au contraire, j'aime ni l'un ni l'autre. Donc, de réfléchir à un niveau très individuel, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je suis prêt à investir ? L'échelon au-dessus, c'est le niveau de l'entreprise, de se poser exactement la même question pour remplir ma tâche, pour pouvoir délivrer les services ou les produits dont j'ai besoin, quelles sont les compétences que j'ai besoin dans mon entreprise. Ça peut être dans le numérique, ça peut être dans l'interaction sociale, et donc de développer aussi mes collaboratrices et mes collaborateurs pour faire ça. Et puis, à l'échelon étatique, de se poser la question si les cursus qu'on propose dans les hautes écoles, dans les universités, dans les fêtières ou les formations d'apprentissage, est-ce que ces cursus répondent encore aux besoins de l'économie et d'ajuster à ce moment-là.
Est-ce qu'on pourrait envisager d'obliger les entreprises à assurer ou à offrir à leurs employés, au fond, une formation continue régulière ?
Mais l'obligation, elle vient par le marché. Si vous n'êtes pas le personnel compétent dans votre entreprise, la concurrence, elle, ne va pas attendre. Et puis, vous allez perdre des parts de marché. Respectivement, vous allez même perdre le marché. Donc, cette obligation-là, elle viendra par cette nécessité de survivre. De dire, tu as l'obligation, ça sera déclaratif. Mais qui paye qui bénéficie de cette rentrée-là? Je pense que le système tel qu'on a aujourd'hui, avec une formation de base fortement financée par l'État, et puis une formation continue qui s'appuie sur l'employé lui-même ou son employeur ou une solution mixte. Pour l'instant, elle a fait ses preuves. Et je ne pense pas que le fait d'avoir juste de l'intelligence artificielle qui arrive nécessite un changement de paradigme par rapport à cette approche.
Jérôme Cosandet, je vous propose une petite irrespiration durant cet entretien sous la forme d'un petit dilemme. On va faire une partie de « tu préfères ». C'est-à-dire que je vous propose deux options, vous avez toujours le choix. Mm-hmm. Est-ce que vous payez en argent liquide ou avec Twint ?
Twint.
Est-ce que vous pratiquez l'online banking ou vous payez vos factures au guichet de la poste ?
Online banking.
Est-ce que vous écrivez vos courriers par email ou par lettre papier ?
Dans la majorité des cas, par email.
Est-ce que vous vous rendez plutôt au cinéma ou vous regardez des films en streaming ?
Les deux.
Est-ce que vous lisez sur une liseuse ou vous achetez des livres papier ?
Je regrette de ne pas pouvoir acheter les livres papier, mais je les lis aujourd'hui sur une liseuse.
Est-ce que vous pratiquez le shopping en ligne ou vous vous rendez dans les magasins pour faire vos achats ?
Ça dépend du produit, les deux.
Lorsque vous vous rendez à un concert, est-ce que vous imprimez vos billets ou vous les téléchargez sur votre smartphone ?
Je les télécharge sur mon smartphone, puis j'ai toujours peur de ne pas avoir de batterie avant d'arriver à un concert.
Qu'est-ce qui est accroché à votre poignet ? Smartwatch ou une montre traditionnelle ?
Une montre traditionnelle.
Lorsque vous achetez un nouvel appareil, réglage d'usine ou configuration personnelle ?
Non, je suis content quand ça marche d'emblée, donc plutôt réglage d'usine.
Et la musique, vous l'écoutez en streaming ou sur un support audio ?
J'utilise le streaming pour pouvoir l'écouter sur un support audio. Ouais.
Jérôme Cosandet, vous êtes le responsable de la direction du travail du SECO. Parmi les compétences, au fond, de votre département, figure tout ce qui est de l'ordre de l'assurance chômage, des ORP. Alors là, les nouveaux outils numériques amènent, j'imagine, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités sur, au fond, les services et les prestations de l'État. En termes de e-service, par exemple, qu'est-ce qui est en train de changer ? Qu'est-ce qui a changé ?
Bon, je pense qu'à la limite, on ne fait pas de différence par rapport à ce que vous observez dans votre banque ou dans d'autres, ou les CFF par exemple. Je pense que les gens aiment bien ce qui est le... En termes techniques, on parle de multi-channel, hein, de pouvoir passer au guichet, de pouvoir soumettre ses documents par papier ou les télécharger ou téléverser sur une plateforme informatique. Aujourd'hui, dans l'assurance chômage, on a cette plateforme Jobroom qui s'adresse principalement aux chômeuses et aux chômeurs, où justement ils peuvent trouver des informations, mais ils peuvent justement saisir, respectivement envoyer leurs documents de façon électronique. Ça marche assez bien. À peu près trois quarts des chômeuses et des chômeurs utilisent ces services. Mais si j'ai trois quarts, ça veut dire qu'il y a aussi un quart qui travaille encore sur une version papier.
Donc là, que ce soit bien clair, Vous maintenez en fait tout l'accès physique à...
On garde cet accès physique, sachant que...
À l'offre.
La tendance, et puis avec chaque génération qui passe, si vous avez aujourd'hui, vous achetez votre billet pour le train de plus en plus sur votre téléphone portable, si vous communiquez avec votre caisse maladie, vous allez aussi télécharger vos documents. Et donc, la banque, je pense qu'aujourd'hui, personne n'accepterait d'ouvrir un compte dans une banque qui ne vous permet pas de faire vos paiements le week-end de façon numérique. Donc, nous, on essaie de suivre ce mouvement. Je pense qu'on pourrait être encore plus loin. Aujourd'hui, on n'est encore pas avec une application sur le téléphone portable. Mais ça montre clairement qu'il y a ce besoin. Mais il y a des gens... pour des raisons de préférence, pour des raisons de compétence, qui ne sont peut-être pas à l'aise, qui n'ont peut-être pas un ordinateur à la maison. Un téléphone portable, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens l'auraient. Mais il faut aussi ouvrir cette possibilité de dialoguer, de communiquer avec l'assurance chômage.
Peut-être une question sur... vous avez évoqué l'exemple des job rooms. Quels sont les principaux avantages, au fond, d'avoir une offre en ligne ? Qu'est-ce que ça permet que ne permettait pas l'accès ou que ne permet pas l'accès physique à vos services ?
Bon, il y a déjà un aspect de convivialité, ça vous permet de ne pas être dépendant des horaires d'ouverture d'un guichet. Vous pouvez envoyer ces documents tout le monde. C'est clair que par la poste, on peut aussi glisser une lettre dans la boîte aux lettres un dimanche après-midi. Mais c'est quand même plus facile. Vous avez de plus en plus de communication. Vous recevez aussi les documents à envoyer par un lien email ou par un PDF que vous avez reçu de votre ancien employeur, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de tout regrouper. Vous avez une possibilité de tracer. Donc, vous voyez quand les documents ont été téléversés, vous savez qu'ils ont été chargés. Ça veut dire que vous, comme votre conseiller ORP ou votre conseiller dans votre caisse de chômage, ont la même visibilité sur les documents qui sont disponibles. Donc, il y a ces deux éléments qui sont là. Et puis, pour nous, bien sûr, au sein de la caisse de chômage, si les informations sont téléversées par un canal de services informatiques, l'information arrive de façon structurée. Les champs sont déjà remplis. On ne doit pas les copier en lisant un document qu'on a devant soi. Ce n'est pas une écriture manuscrite qu'on a de la peine à déchiffrer. Donc la qualité, la rapidité de traitement est aussi améliorée, ce qui finalement se traduit par une meilleure prestation pour le chômeur parce qu'il reçoit ses prestations plus vite ou il reçoit une décision plus vite.
Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a environ un quart de la population qui décide, ou ne décide pas d'ailleurs, n'a pas la possibilité d'utiliser ces services en ligne. Des études montrent d'ailleurs qu'il existe encore et toujours une fracture numérique en Occident, y compris en Suisse. Alors comment, dans ces conditions-là, est-ce qu'on garantit au fond un accès égal aux services mentionnés précédemment et ainsi que leur inclusivité ?
Bon, c'est important. Et je pense qu'il faut faire attention quand on parle de fracture numérique. On pense souvent à un gap entre les générations. On dit que les personnes plus âgées ont plus de peine. Déjà, dans l'assurance chômage, nos assurés âgés, entre guillemets, ils ont 65 ans maximum. Donc, on parle d'une population qui est active, qui est déjà au quotidien. Dans un travail de bureau, c'est évident. Mais si on prend mon exemple du jardinier de tout à l'heure, dans les soins, etc., ils sont confrontés de plus en plus à des outils numériques. Donc, cette fracture, à ce niveau, elle est plus faible. Ensuite, je ferai la distinction, est-ce qu'on parle de B2B ou de B2C ? Est-ce qu'on parle de relations que le SECO ou l'assurance chômage entretient avec un employeur ? Ou est-ce qu'on parle d'une relation entre le SECO et un employé ou un chômeur ? Aujourd'hui, je pense qu'un employeur, il doit faire des fiches de salaire, il doit défaire sa déclaration de TVA. On peut partir du principe que la fracture numérique est beaucoup, beaucoup plus faible. Et donc, on peut plus miser sur le numérique. Et puis, quand on parle de personnes individuelles, typiquement au chômage, les personnes qui sont plus à risque de tomber au chômage, c'est les gens sans formation, qui ne maîtrisent pas la langue. Tous ces facteurs de risque de pauvreté qu'on retrouve dans le risque de tomber au chômage et qui sont aussi des facteurs de risque vis-à-vis de la fracture numérique. Donc là, je pense que c'est important de considérer ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller vers le numérique, mais ça veut dire qu'on doit laisser une petite porte ouverte par rapport à l'analogue. Le Parlement a décidé de supprimer ces fameux... Ces fameux descriptifs dans les médicaments, vous savez, ces 15 pages écrites dans toutes les langues de l'Union européenne, tout petit police 6 qu'on n'arrive pas à lire. Là, on parle aussi de fracture numérique analogue avec les lunettes qui ne suivent plus. Et puis, on propose un code QR pour lire ces informations. Je pense que ce serait même plus facile à les lire. Mais il y aura la possibilité de passer dans une pharmacie et puis de demander qu'on l'imprime ou d'avoir du conseil. Et dans le même état d'esprit, je pense qu'on doit avoir cette offre éventuellement possible pour les personnes qui n'y arrivent pas, et bien qu'elles aient un numéro de téléphone ou un guichet où elles pourraient passer pour elles. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit ne pas suivre la piste numérique qui répond aux besoins de la grande majorité des chômeuses et des chômeurs.
Jérôme Cozendec, grâce aux nouveaux outils numériques, il est possible d'optimiser le monitoring du marché du travail. Alors, quel est l'intérêt d'un monitoring fin du marché du travail, en tout cas avec votre perspective de responsable de la direction du travail au SECO ?
Bon, c'est vrai qu'avec le passage, aujourd'hui le marché de l'emploi est essentiellement en ligne. Dans le temps, on pouvait encore abonner à certains journaux seulement l'édition du samedi, parce que c'est là qu'il y avait le cahier avec les postes qui étaient ouverts. Aujourd'hui, en ayant tout ça en ligne, ça nous permet, nous, du côté du SECO, d'avoir une très très bonne visibilité des postes qui sont mis à disposition avec le numéro postal. On peut voir assez de façon très filigrane où le marché du travail est en train d'augmenter ou de baisser, d'une part. Et puis de l'autre part, on a aussi, quand les gens s'inscrivent au chômage, on a aussi la possibilité de répertorier toutes leurs compétences. Et donc d'avoir une bonne visibilité, une meilleure visibilité de ce qui se passe du côté de l'offre et de la demande. Et pour nous, c'est important aussi de pouvoir, à l'avenir, encore mieux permettre, je ne sais pas le mot en français, de matcher, de faire vraiment correspondre cette offre et cette demande.
Alors justement, L'une des impulsions qui est issue du PNR 77, c'est d'utiliser les nouvelles technologies et les stratégies numériques afin de faire concorder au mieux, donc faire ce matching entre les compétences des demandeurs, des demandeuses d'emploi et les postes vacants. Alors pourquoi, en l'état actuel, est-ce qu'il est difficile d'opérer ce matching de la demande et de l'offre sur les plateformes d'emploi ? Quels sont les principaux obstacles et défis à ce niveau-là ?
Je dirais, l'obstacle principal qui me vient à l'esprit, c'est la qualité des données. À la limite, je pourrais imaginer deux personnes complètement différentes, mais qui s'écriraient la même chose ou de façon semblable. Justement, tout ce qui est les soft skills, tout ce qui est ces compétences qui sont plus dans le relationnel. Personne va dire je suis désagréable, je suis pas capable de travailler en équipe. Enfin, il y a, je pense, un petit peu de c'est plus difficile à juger ça. Respectivement, c'est aussi plus difficile à décrire un poste et de dire vraiment ce qui compte. Ou respectivement, on va permettre de faire un filtre qui permettra de sélectionner les cinq meilleurs candidats, allez, on va dire ça, mais ce qui fera la différence entre les cinq et celui qui recevra ou celle qui recevra le poste dans le profil du poste. Et je pense que ça, c'est la plus grande difficulté. On arrive, je pense, aujourd'hui, certes, et avec l'intelligence artificielle, on arrivera encore mieux à faire ce premier filtre, c'est déjà pas important, mais je pense que la décision, respectivement, du coup, la qualité du match dépendra de facteurs qui sont difficiles. Souvent, si vous demandez à quelqu'un qui vient d'acheter une nouvelle voiture, pourquoi, enfin, qui cherche une nouvelle voiture, il vous dit, elle doit être grande, elle doit être, je sais pas, 4x4, elle doit consommer peu, et puis après, vous demandez laquelle tu as finalement choisi, ben, il vous répondra, ben, c'est là, il y a plus de place pour les jambes, alors que ce n'était pas un critère au début du choix. Et je pense que dans le marché du travail, ça reste un défi de vraiment décrire qu'est-ce qui est absolument nécessaire. C'était le 4x4 dans mon exemple, mais d'identifier aussi ce qui fait la différence finalement pour le choix de la personne qu'on va employer.
Qu'est-ce qu'un monitoring affiné du marché du travail tel que discuté précédemment peut apporter comme nouvelle possibilité dans ce matching ?
Bon, il y a différents projets qui ont été menés pour justement un peu mieux décrire ces compétences, de les décrire d'une façon un peu plus objective. Et là, je pense qu'on peut aussi apprendre, de découvrir ce sont quoi les critères qui typiquement font la différence, d'identifier dans un bruit de fond des signaux qui ressortent un peu plus fort. Là, il y a sûrement un potentiel, mais ça reste encore... Le matching se fait sur une base de modèles qu'on a vus, se base aussi sur le passé, alors que le marché du travail, on l'a dit, est en train d'évoluer. Donc sur les métiers qui sont standardisés, qu'on connaît bien, peut-être que ce matching sera plus facile. C'est des métiers qui sont peut-être plus nouveaux, ou une répartition des tâches qui est plus nouvelle. Ce sera, je pense, encore une limite, en tout cas aujourd'hui, pour ces modèles-là.
Est-ce que vous pouvez nous décrire la plateforme d'emploi du futur ? Elle ressemblerait à quoi, au fond ?
C'est une très, très bonne question. D'un côté, j'aimerais qu'elle puisse me connaître le mieux possible. On parlait de ChatGPT tout au début. ChatGPT enregistre les questions que j'ai faites, donc il connaît, il est capable d'intégrer des éléments de questions, respectivement de réponses antécédentes dans la réponse aujourd'hui. Puis en même temps, quand je dis ça, ben Orson Welles, 1984, me fait peur. Donc il y aura aussi ici ce trade-off à trouver entre quelle est la part que j'aimerais que l'outil connaisse de moi, quelles sont les données qu'il peut utiliser, quelles sont aussi la transparence par rapport à ces modèles qui sont utilisés pour me décrire, respectivement, pour pouvoir faire ce match. Donc, je pense que le modèle du futur sera capable de bien me connaître, mais de respecter mon intimité jusque là où je suis prêt à partager ces informations et pas au-delà.
Le travail de plateforme, c'est donc une forme de travail où les organisations, les prestataires de services individuels entrent en contact via une plateforme en ligne. Ça, c'est une autre évolution majeure des modalités de travail en lien avec la numérisation. Alors, quelles sont les principales opportunités de ce modèle de plateforme qu'on appelle aussi la gig economy ou le gig working ?
Bon, l'avantage de ces plateformes, c'est justement vous arrivez à mettre deux personnes en contact qui autrement auraient plus de difficultés. Si on pense à un service de taxi, vous avez besoin de vous déplacer de A à B, mais vous êtes justement à A et vous mettez cette transparence en voyant les véhicules qui sont disponibles, respectivement les chauffeurs de taxi voient les options qui sont là. Ça, c'est quelque chose de très positif du point de vue de l'innovation. Maintenant, on se retrouve quand même dans un cadre légal du travail. C'est pas parce que ce matching entre clients et fournisseurs de prestations se passe par une plateforme, que les lois sur le travail ne s'appliquent plus. Et donc là, on voit vraiment la difficulté de trouver des nouvelles formes de contrats, des nouvelles formes de collaboration. Il y a des choses qui se passent, typiquement dans le domaine des taxis, dans le canton de Genève, où on passe par un instrument qui s'appelle la location de service. On essaie d'utiliser justement les outils qui sont à disposition dans la loi du travail, dans le code des obligations, pour pouvoir répondre à cette demande. Mais, encore une fois, l'aspect technologique, c'est quelque chose, mais il y a l'aspect sociétal, pas seulement au niveau de la demande, mais l'aspect sociétal au niveau régulatif, qui fait que ces trois pôles, la demande, la technologie, le besoin réglementaire, doivent aller de concert pour pouvoir permettre justement une certaine évolution. C'est pas juste la technologie qui détermine si oui ou non une technologie peut être adaptée ou pas.
Alors justement, un projet mené dans le cadre du PNR 77 constate que cette nouvelle forme de travail entraîne des défis pour les travailleuses et les travailleurs, et notamment le manque de lien social, le pouvoir de négociation limité dans les interactions avec la clientèle et les revenus irréguliers. Cette question du lien social, qu'on n'a peut-être pas abordé encore durant l'entretien, quelle est son importance au fond pour un marché du travail dynamique ?
Donc il y aura dans certaines branches, dans certaines activités, ce lien social restera ou deviendra même encore plus important. Encore une fois, chez le coiffeur, en tout cas nous les hommes, on pourrait nous imaginer nous mettre la tête dans un étau et puis de se faire tondre une coiffure toute simple, respectivement peut-être même avec l'informatique, on pourrait faire mieux. Mais il restera toujours la discussion avec le coiffeur ou avec la coiffeuse, il restera toujours le moment où on s'offre pour un moment de bien-être. Donc je pense que ce social reste hyper important. Je ne pense pas que c'est à l'État de définir ce que c'est que ce lien social. Il y a des règles clairement définies par rapport à la protection à la santé, il y a des règles clairement définies par rapport au travail dominical, aussi dans le but de respecter ces liens sociaux, avec toute la panoplie d'exceptions. Je pense au transport, je pense à la gastronomie, à l'hôtellerie, aux soins, où justement on doit quand même faire une pesée d'intérêt entre le besoin social d'une personne individuelle, mais le besoin social d'une société qui doit fonctionner. Donc je pense que le travail des plateformes remet cette discussion au centre, mais là encore une fois, je pense qu'il faut que l'État trouve ce bon équilibre entre permettre l'innovation, mais en garantissant la santé des travailleuses et des travailleurs.
Et qui dit technologie, numérisation, on ne dit pas forcément éradiquer l'humain, on est bien d'accord. D'ailleurs, le comité directeur du PNR 77 estime qu'à l'avenir, l'humain et l'IA devront forcément être appréhendés comme un team. Alors, que faut-il concrètement mettre en place pour qu'une telle collaboration fonctionne ?
Bonne question. Mais effectivement, je pense à cette dualité, cette complémentarité, elle est absolument essentielle. Moi, je me rappelle, j'étais dans le comité d'une association. À l'époque, on se retrouvait une fois par an, tout le comité, pour remplir les lettres, les programmes de l'année et glisser les bulletins de versement dans une seule lettre. Et il y avait donc un courrier de l'association par an à tous ses membres. Aujourd'hui, par le biais d'infolettres, par le biais de paiements informatisés, etc., on peut avoir des interactions beaucoup plus vite. Donc, on aurait pu imaginer que la numérisation rende le comité superflu, mais en fait c'est l'inverse. Le comité peut aujourd'hui faire beaucoup plus avec les mêmes ressources. Et je pense que cette ouverture d'esprit par rapport à cette dualité, la complémentarité et la substitution, et de réfléchir comment on utilise le temps qu'on a gagné pour faire justement effectuer des tâches où on a un vrai avantage comparatif, je pense qu'elle permettra de bien développer le marché du travail. Mais il faut être aussi conscient, il ne faut pas être naïf, il y a des gens pour qui cette complémentarité sera moindre, pour qui la substitution sera plus importante. Et là, c'est important d'avoir un filet social, comme par exemple l'assurance chômage, mais pas uniquement, d'avoir un filet social qui récupère justement ces gens et qui leur permette de retrouver pied pour pouvoir rebondir peut-être dans une autre fonction ou une fonction avec une autre répartition des tâches.
Jérôme Cozendel, l'entretien touche à sa fin. Vous allez rallumer votre téléphone s'il était éteint. Quelle est justement votre app préférée sur le smartphone ? Celle dont vous ne pourriez pas plus vous passer.
Bon, j'utilise pas mal Duolingo, je vous disais. Très bêtement, l'application Google Maps, c'est les CFF, je suis beaucoup en déplacement et c'est vrai que c'est hyper confortable de pouvoir savoir depuis ici jusqu'à là-bas où c'est que je peux aller. Je pense que ce sont les deux applications que j'utilise le plus.
À l'inverse, celle qui vous semble la plus inutile,
que vous devriez depuis longtemps poubelliser ?
Mais j'ai fait le tri, certaines que je n'utilisais pas, respectivement, où je trouvais que je passais trop de temps, qui était non seulement non productif, mais des fois c'est bien d'être pas productif, mais qui ne m'apportait même pas une satisfaction. Celles-là, je les ai enlevées pour ne pas être soumis à la tentation.
Avec un exemple concret ?
Un réseau social X, pour ne pas le se nommer. Je pense que... voilà. Et depuis que je l'ai fait, ça va très bien.
Quel sera votre premier réflexe numérique après cette interview ?
Je pense que j'irai consulter mes emails.
Jérôme Cosandet, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci, Madame Chaud.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les répercussions possibles de la transformation numérique sur le marché du travail, ne manquez pas un autre épisode du podcast Dialogue numérique, centré cette fois sur la perspective syndicale. Mon collègue Hans Hug a discuté, en allemand, avec Daniel Lampart, économiste en chef de l'Union syndicale suisse, l'USS. Pour davantage d'informations sur le PNR 77, ainsi que sur les résultats émanant des divers projets de recherche liés, rendez-vous sur pnr77.ch.
Dialogue numérique. Le podcast du Programme national de recherche sur la transformation numérique, le PNR 77. Rédaction, Patricia Michaud et Lucia Vazella. Animation, Patricia Michaud. Production, Lucia Vazella. Idées et concepts, Advocacy et Podcast Schmidt.